Voilà, pour Monsieur Joël. Donc le prophète Joël, suivant les commentateurs, suivant les exégètes, les scientifiques, on n'arrive pas toujours à se mettre d'accord pour quand a vécu Joël. Il y en a qui disent qu'il a vécu à la même époque qu'Amos, au 8e siècle, avant Jésus. Bon, moi quand je regarde le texte, je pense que c'est plutôt dans les années 600, vers l'année 600. C'est à Jérusalem qu'il a vécu. Il n'est pas un prêtre, il n'est pas un intellectuel. On ne sait pas quel métier il avait, mais toujours est-il qu'il avait pris une certaine autorité par ses prophéties, par sa foi, et son courage de dire les choses. Donc, il va fréquenter bien sûr les paysans, il va leur annoncer qu'ils vont perdre leur récolte, il va fréquenter les prêtres, et il va leur dire vous allez perdre votre boulot, votre sacerdoce et le temple. Et puis pour les rois, pour les princes, la même chose. Hein? Et il n'a pas eu peur de leur dire qu'il fallait changer toute leur vie. Voilà. Regardons dans le chapitre 1, au verset 9. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Donc il y a le peuple n'est plus là, quasiment. Beaucoup de prêtres sont partis, ont été emportés, déportés à Babylone. Et il y a énormément de gens qui sont déjà enlevés, les artisans, les juristes, tous les gens un peu qualifiés dans quelque chose, manuellement ou intellectuellement. Et il reste des personnes âgées, malades ou plus faibles, et un peuple désarticulé, chaotique. Et évidemment, le prophète dit, ben, il faut se réunir et prier. Hein? Vous voyez, par exemple, continuons dans chapitre 1, allons au verset 6, un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable, il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Le pays qui est représenté par le lion, la lionne, c'est la Mésopotamie, hein, donc l'Irak et la Syrie actuellement. C'est toujours le symbole. Hein. Il a dévasté ma vigne, c'est-à-dire Israël. Il a mis en morceaux mon figuier, c'est Jérusalem. Il l'a dépouillé, abattu, les rameaux de la vigne ont blanchi. Donc normalement les rameaux, les feuilles, c'est vert, ont blanchi, c'est-à-dire il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de vie. Dans la chlorophylle, vous avez caché avec un tas de bois le sol, l'herbe, hein, pour tirer les bois. Vous avez mis, je ne sais pas, un plastique à terre pendant 15 jours, l'herbe est jaune. C'est-à-dire que la chlorophylle est disparue et c'est de l'accentophylle. La seule différence, c'est que la molécule, l'atome de fer est parti. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance pour certains, c'est ici. Mais le fait qu'il n'y a plus l'atome de fer, il n'y a plus de photosynthèse, donc la vie est en train de partir. Il n'y a plus de photosynthèse, la plante ne sait plus prendre le gaz carbonique, la lumière ne fait plus son effet, et donc la vie dépérit. Eh bien, c'est pour dire que la vigne, elle blanchit, c'est-à-dire elle a perdu la puissance de la lumière, c'est-à-dire que Dieu s'est retiré. Dieu donne plus sa bénédiction. Lamente-toi comme la Vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent dans la maison de l'Éternel. Donc vous voyez, c'est assez tristouné dans tous les lieux, surtout le temple, les lieux de rassemblement. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou, la farine est tarie, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment, de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant. La vigne est confuse, c'est-à-dire ce peuple est confus. Par rapport à quoi ? Certaines prophéties sont très importantes chez ce prophète. Celui qui croit en Jésus-Christ n'est point confus. Hébreux, épître de Pierre et Hébreux. L'opposition. Et languissant, le figuier languissant, Jérusalem languissant. La population languissante que Jésus voyait, c'était simplement quelqu'un qui ne croit plus que Dieu est fidèle, que Dieu agit, tout simplement on croit en un Dieu vague, etc. On garde des habitudes religieuses, mais on n'a plus cette force de la foi de croire que Dieu est agissant, est présent et dirige les événements. Ça s'appelle l'incrédulité, avec son effet, qui est l'abattement, qui est la perte de la force, perte de morale, perte de, même de la moralité. Alors, la joie a cessé parmi les fils de l'homme. Prêtres, saignez-vous, donc mettez votre ceinture, pleurez, lamentez-vous, serviteurs éternels, venez, passez la nuit, revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu, offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Bien sûr, il n'y a plus de richesse, il n'y a plus d'activité économique. Il y a eu deux invasions, 605 et 603, la prochaine, 598, de leur faute, bien sûr, hein, aux Juifs, ben là, tout va être rasé, le temple y compris. Alors, que fait ce brave homme, Joël, qui est au service de Dieu, publie un jeûne, hein, une convocation solennelle, assemblée les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, crie à l'Éternel. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit les églises vides, les gens qui ont un certain âge vont se réveiller et aller dans les églises? Est-ce qu'ils vont y aller ou ils vont se mettre devant la TV? Je pense que si réellement, dans notre société ici, tous les gens qui ont plus de 70 ans se disaient « Dimanche prochain, au matin, on est en train de prier Dieu » et ils montreraient l'exemple aux autres. Mais non. Donc ça veut dire que, pour moi, je pense que cet homme-là insiste sur la responsabilité. Quel que soit l'âge qu'on a, on a un témoignage à donner. Quel que soit l'âge qu'on a. Qu'on ait mal à droite ou gauche, il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Il y a une responsabilité. À l'heure actuelle, dans notre société, on en a une responsabilité. Ou on laisse partir tout à la dérive, au chaos, ou on réagit. Eh bien, c'est un peu le cas de Joël. Verset 15. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Alors, le jour de l'Éternel, c'est un thème extrêmement fort, qui mérite beaucoup d'études. J'ai donné des feuilles à Caroline et Jean-Christophe là-dessus, et à Tanguy hier, qui était en réunion au matin. Le samedi matin, on étudie la Bible pendant 3 heures quasiment, hein, et non-stop. Et bon, pratiquement, c'était sur ce thème-là. Bon, je ne vais pas trop le représenter. Il y en a toujours qui attrapent des boutons et de l'impédigo quand j'en parle, alors... On m'appelle apocalyptique ou n'importe quoi ici. Ça devient quelque chose d'assez difficile. Alors, pratiquement, le jour de l'Éternel est un jour qui existera. Ça, c'est clair. Tous les prophètes en parlent. Amos, au moins 5-6 fois dans ses prophéties. Et même Jésus. Même l'apôtre Paul. Voilà. Alors... les semences ont séché, les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, il n'y a point de blé. Est-ce que réellement c'est un problème? Vous savez qu'aujourd'hui, quoi qu'on le veuille, il y a 9 jours de stock en Europe, pas plus. Et Madame Angela Merkel a dit à ses Allemands, s'il vous plaît, mettez de stock 10 jours en plus chez vous. Alors, qu'on arrête les camions, les avions cargo, 2 semaines, vous allez voir. Et tout le monde qui est habitué à aller dans les rayons, là, comme ça, à mettre dans le frigo, puis à manger, à jeter les plastiques à la poubelle, eh bien, on verrait la tête. Le problème, c'est que tout le monde a abandonné la terre, le travail, en croyant que c'est automatique, la nourriture, paf, paf. C'était un peu la situation de ce peuple-là. Tout allait très bien, puis Madame la Marquise, ça ne va plus. Hein? Et comme, regardez, comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont concernés parce qu'ils sont sans pâturage, même les troupeaux de brebis sont en souffrance. Ézéchiel, au même moment dit que les oiseaux dépérissent, les poissons de la mer dépérissent à cause du péché de l'homme. Au même moment, le prophète Ézéchiel dit ça. Et la bouchère de Hête, où nous allons, vient du Brésil, a été partie voir sa famille. Son papa qui faisait du blé et du maïs, maintenant dans sa région, il n'y a plus d'eau dans les rivières ni les ruisseaux. Il ne peut rien faire de sa terre. Il n'y a plus de travail pour les jeunes gens, pour les jeunes hommes. La ville d'où elle provient, elle habite à côté bien sûr, à 3-4 km, on voit les poubelles alentour de toute la ville, aussi haut que les, des tas, aussi haut que les maisons, et dans les rues aussi, on ne ramasse plus les poubelles. Il y a 80 villes comme Bruxelles au Brésil qui n'ont pas d'eau. Au Brésil, le Brésil des Jeux Olympiques, ce n'est qu'un mensonge. 80 villes comme Bruxelles, ils n'ont pas d'eau. Les camions passent avec l'eau et on donne de l'eau à ceux qui payent, pas aux autres. Est-ce que nous n'aurons pas le tour ici? Nous n'aurons pas le tour ici. Donc, c'est des situations qui existent à certains endroits et nous, on fait comme si ça n'existait pas. Il y a des fiestas tout le temps ici dans notre région. C'est à croire que plus le mal règne autre part, plus il y a de fiestas ici. J'arrive plus à comprendre cette folie qui gagne notre région. Mais pratiquement, ça ne sert à rien. La folie ne va pas cacher la réalité. Elle va nous gagner la réalité. Ici, dans ce texte-là, Joël n'a pas fait ce que les gens aimaient. Il leur a chauffé les oreilles. Il leur a déplu. Il leur a dit, ça va encore être pire. Alors, bien sûr, il a agacé les gens, comme parfois je peux le faire, et pratiquement, regardez, il crie à l'Éternel, verset 19. « C'est vers toi que je crie, ô Éternel. C'est vers toi. » Verset 20. « Les bêtes des champs crient aussi vers toi. » Car les torrents sont secs, le feu a dévoré et plein de désert. Toutes les études statistiques d'aujourd'hui, des scientifiques, montrent bien que le problème de l'eau est majeur. Et que le Sahel s'agrandit de 7 km depuis 50 ans vers le nord et vers le sud. C'était le cas ici en Israël. Pourquoi Dieu ne bénit-il plus Israël à cette époque-là? Alors voilà la situation pour notre prophète, au chapitre 2, sonnez de la trompette. Le chauffard, la corne de bélier, en rond, dans lequel on pousse le son, c'est pour l'appel à la repentance, à la conversion, la fête des trompettes. Sonnez de la trompette en Sion, en Jérusalem, faites-la retentir sur ma montagne, que tous les habitants du pays tremblent. Le jour de l'Éternel vient, il est proche. Alors, bien sûr, il y a des phénomènes qui ne se sont pas passés à cette époque-là, qui sont pour plus tard, jour de ténèbres, d'obscurité, nuées, brouillard, etc. Ça, c'est autre chose, bien sûr, qui est annoncé. Bon, tout le chapitre 2 parle d'un événement important à venir, à la fin de la période de tribulation. Mais c'est la victoire de Dieu, finalement, qui est prêché par Joël. Regardez bien au verset 11, chapitre 2. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, son camp est immense, l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Ça, c'est le jugement final que Dieu va opérer, non pas sur les croyants, pas sur les sauvés, mais sur le monde qui veut vivre dans la convoitise et le péché. Quand on voit cette expression « son camp est immense », son armée est immense, vous pouvez lire au deuxième livre des rois, chapitre 6, un récit où le roi de Syrie veut arrêter Élisée, le prophète Élisée. Pourquoi? Parce que Élisée continuellement dit au roi d'Israël où l'armée de Syrie va attaquer. Et un des conseillers du roi de Syrie lui dit, mais tu peux faire ce que tu veux, même décider quelque chose dans ta chambre. Le prophète Élisée est mis au courant par Dieu, il le dit au roi d'Israël, et quand tu arrives avec ton armée, ils ne sont pas là. Et c'est toi qui te fais avoir. Alors, le roi de Syrie décide, il faut arrêter cet Élisée, il faut le faire taire. Ce prophète de malheur, il me fait perdre toutes les batailles. Alors, ce qui se passe, la foule, la grande armée du roi de Syrie arrive à Dothan, le village de Dothan, au nord d'Israël, et on encercle la maison où est Géhazi, c'est le serviteur, et Élisée. Qu'est-ce qui se passe? Élisée est comme ça, bien peinard, et il ne se tracasse pas. Et il dit à son serviteur, ne tracasse pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Et Élisée prie, un esprit d'aveuglement tombe sur les gens de Syrie. Élisée sort, il leur dit, vous cherchez quelqu'un? Oui, nous cherchons Élisée. Ben, il dit, attendez, il est à Samarie, je vais vous conduire. Et Élisée les conduit, il les amène jusqu'à Samarie, la ville de Samarie, et ils sont là en face du roi d'Israël, des tribus du Nord, qui est des soldats. Confrontation, bien sûr. Et Élisée dit au roi d'Israël, donne-leur à manger, ils retourneront. Il n'y aura pas de guerre. Donne-leur à manger et à boire. Et c'est ce qui se passe. On voit réellement que l'esprit d'aveuglement tombait sur l'armée de Syrie, qui était puissante et féroce, pas plus ni moins que maintenant, et le nombre d'anges, la puissance des anges de Dieu était bien plus grande que l'armée de Syrie. Ok ? Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que au moment où, dans cette prophétie de Joël, quand Jésus reviendra, il reviendra avec ses anges, il l'a dit, ils viendront pour moissonner, ils trieront le blé livré, etc. L'armée de Christ est bien plus nombreuse que celle des hommes. D'ailleurs, quand Pilate l'interroge, il lui dit, si je demandais à mon père plusieurs légions d'anges, il me les donnerait. Pilate lui dit, ne vois-tu pas que j'ai le pouvoir de t'arrêter, etc., de t'exécuter? Tu n'as de pouvoir que celui que Dieu t'a permis d'avoir. Eh bien, c'est pour vous dire que Joël a cette conception qu'aucun pouvoir humain n'existe sans la permission de Dieu et que le pouvoir de Dieu est bien plus grand et plus efficace. Ça, c'est extrêmement important. Il est en train de parler à un peuple qui est exténué, qui a péché, qui est buté, qui ne suit pas, qui n'aime pas Dieu et qui est brisé. Et il leur dit, il y aura un jour un jugement pour tous les hommes, et quelle que soit la puissance qui a déjà envahi deux fois Jérusalem, qui va venir pour une troisième fois tout raser, quelle que soit la puissance, c'est la puissance divine qui aura le dernier mot. Il est en train de leur dire ça, ok? Il est en train de, en attendant, puisque je viens de vous le dire, eh bien vous devriez vous convertir. Ce qui est difficile quand on aime bien son péché. Chapitre 2, verset 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. » Donc, rappelez-vous qu'au chapitre 1, il avait déjà dit, verset 14, « Publie un jeûne, une convocation solennelle, assemblée et vieillard. » Je répète qu'aujourd'hui, tous les gens d'un certain âge doivent réagir. Ils ont le devoir de se retourner vers Dieu et de montrer à toute la jeunesse le chemin. Je le répète, ils rendront compte à Dieu. Comment voulez-vous que les jeunes sachent où est le vrai et le faux, où est le chemin, si ceux qui les précèdent n'ont pas le courage de se préciser? Chapitre 2. Verset 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, il se repent des maux qu'il envoie. » Ce verset-là, verset 13, c'est quelque chose que Dieu a dit déjà à Moïse. Dans Exode, au chapitre 32 et 33. Il y a une permanence de la révélation dans la parole de Dieu. Il y a une permanence de ce que Dieu dit, qu'il redit tout le temps, il est patient pour les oreilles bouchées. ou les yeux fermés, il est patient. Qui sait s'il ne reviendra pas, ne se repentira pas, s'il ne laisserait pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez la trompette en Sion, donc repentez-vous, publiez un jeûne, convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à mamelle. Ah. Hier, j'étais assis à table avec Marie-Hélène et un de nos fils nous a offert un pot avec des belles fleurs, là il est dehors, et on regardait, il y avait un moro sphinx qui était là. Moro sphinx, si vous voulez, ça ressemble un peu à l'oiseau du colibri, le colibri, mais en plus petit, et ça vole, et par seconde, il y a 250 battements d'ailes. Par seconde! Fois 60 secondes pour une minute, imaginez ce que c'est. Il est là, et il a un long bec, zzz, comme les hélicoptères Apache dans les combats, zzz, il bouge, etc. Il était magnifique, magnifique. Qui a pu créer le moro sphinx? Il va jusqu'en Suède, traverse toute l'Europe, il passe dans les Alpes, dans les vallées, et il va, pour l'hiver, dans la vallée du Pô, en Italie. Qui a créé les moro sphinx? Nous? Même pas de mouche, nous. J'étais au champ, là, deux jours. Depuis longtemps, je ne vois plus de perdrix, de bécasses, etc., d'oiseaux, de lapins. Eh bien, je laisse toujours des coins avec des mauvaises plantes, qu'on appelle ça des mauvaises plantes. Pour moi, elles ne sont pas mauvaises, mais enfin, elles nous dérangent peut-être, et des buissons et des arbres. Eh bien, j'ai vu une perdrix. Je me dis, s'il y en a une, j'en mets toute seule. Hein? J'en mets toute seule. Donc, il y a sûrement le couple. Et puis, peut-être... Eh bien, depuis des années, je n'avais plus vu de perdrix là, sur le plateau. Pourquoi? Parce que, dans le champ, j'ai fait le choix de laisser des zones où les animaux peuvent faire leur nid à terre. Ce genre d'oiseau fait son nid à terre, il ne le fait pas dans les arbres. Et il y a d'autres animaux. J'ai déjà vu une biche venir, elle fait le tour, etc. Ils sont petits. Et puis quoi? Sanglier. C'est quand même bizarre. Sanglier accompagné d'un renard. Pourquoi le sanglier? Il retourne les patates avec ses dents. Il mange une patate ou deux, mais il est gentil, mais il ne me fait jamais beaucoup de dégâts. Et le renard est avec lui pour manger vers de terre les souris. Association sans but lucratif. Parce que le renard, pour retourner de la terre dure, il ne ressemble pas à un bulldozer quand même. Alors, pratiquement, on peut regarder tout ce que Dieu a fait, on peut regarder, contempler, et voir qu'il y a une infinie intelligence, il y a une harmonie dans les choses. Ce n'est pas chez l'homme qu'on la trouve, l'harmonie et l'intelligence. On fait guère la preuve ces temps-ci. Alors, il faut savoir que Dieu, dans sa majesté, dans sa présence, moi j'aime bien aller au champ parce que je dis, Seigneur, tu es présent, tu es là. Et je lui parle. Peut-être en silence, mais je lui parle. Et pourquoi? Parce que je sais qu'il nous aime et qu'il est grand, il est infiniment grand. Regardez, chapitre 2, verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Dieu attend qu'une chose, c'est que je lui parle, que je le considère. Je ne sois pas un adultère qui est en train de regarder des tas d'autres choses. C'est comme un mariage, la foi, entre Dieu et moi, entre Dieu et vous, je l'espère. C'est comme un mariage. Et s'il y a un des deux qui est cocu, ben il est jaloux. S'il y en a un des deux qui ne regarde pas son conjoint, qui ne s'en occupe pas. Normalement, l'autre est jaloux, il réagit. Et il est plein d'émotions, il se dit, mais ça va durer ça, cette vie adultère, il va en souffrir. Donc au verset 18, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. Donc il retient sa colère. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mousse et la farine, de l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous le livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Or, l'invasion de 598 va être pire que les deux autres, 605 et 603. Il y aura encore l'invasion des Perses. l'invasion des Grecs, des Romains. Donc c'est quel? C'est pour le temps à venir. Le temps à venir, il y a un moment donné, c'est fini. Plus personne n'attaquera Israël. J'éloignerai de vous l'ennemi du Nord, donc. Le Nord, le septentrion, c'est Russie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turquie. Je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale. Donc ça, c'est l'Euphrate. C'est le nom qu'on donne dans la Bible à l'Euphrate, en Irak, en Syrie, et son avant-garde dans la mer, son arrière-garde dans la mer occidentale, la Méditerranée. Et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Ça, c'est Armageddon. C'est la défaite de 200 millions d'hommes, une armée de 200 millions d'hommes, dans la vallée du Nord, une vallée de 39 km sur 7 km, de Haïfa à Capernaum. Détruite par la grêle. Des grêlons de 37 kilos. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, des armées se préparent et s'associent. Vous avez vu, la Russie et les États-Unis s'associent pour régler le problème syrien avec la Turquie. Pourtant, ils ne s'aiment pas. Aucun ne s'aime. Et après, ça sera comme on règle. Depuis des mois, il y a déjà des réunions à Paris sans Israël pour régler le problème palestinien. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer, les amis ? De Marie-Hélène était casque bleu en Kosovo, en Yougoslavie. La guerre de Yougoslavie, il y a longtemps. Quand il a eu fini son mandat, on lui a demandé « Est-ce que ça vous intéresse de signer pour aller casque bleu en Israël ?» Tout ce qui est combiné par les grands, tout ce qui est préparé par les grands, n'est jamais improvisé, ni par les banques. C'est pour nous amuser, les discussions de M. Trump et de Mme Hillary Clinton. C'est pour nous amuser, c'est pour nous distraire. Mais tout est orchestré et décidé déjà. Et Dieu est pourtant plus grand que eux tous. Dieu est déjà plus grand que eux tous. Et c'est pour ça qu'il dit, il y aura un échec de ces armées qui viennent pour briser mon peuple. C'est ça qu'il dit là, au verset 20. Et puis après il dit, une parole de réconfort pour tous ceux qui ont peur, qui doutent de la victoire de Dieu. Verset 21, « Terre, ne crains pas !» Ce n'est pas la terre qu'il y a dans mon jardin, c'est les hommes qui sont sur la terre. Ils attrapent des angoisses, des cauchemars en se disant « Qu'est-ce qui va nous arriver ?»« Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse, réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. » Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Les arbres porteront le fruit, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Cette progression insensée et galopante de désert sur la terre n'est pas normale, les amis, alors que la population du monde augmente. Eh bien, c'est un souci qu'on ne sait même pas régler. Les gens, les hommes et les dirigeants sont trop fous. Eh bien, Dieu va le régler. Les bêtes des champs, ne craignez pas. Les plaines du désert revertiront, les arbres porteront leurs fruits. Et nous aussi, une nouvelle terre. C'est dans le plan de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui détruit la terre, c'est les hommes. Dieu aime sa terre. Tout lui appartient sur la terre. Vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première, donc le printemps, et de l'arrière-saison, automne, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de moût, farine, et d'huile, etc. Alors vous avez après des expressions, le gazam, le yélek, etc. Ce sont tous des animaux, des rongeurs, qui envahissent, qui des périodes de sécheresse qui détruisent, et ça on a ça au chapitre 1. Au chapitre 1, vous l'avez, c'est au verset 4, donc la dévastation. Et regardez bien, souvent là où il y a eu des guerres, les paysans ne savent plus aller dans les champs. soit il y a des grenades, il y a des pièges, il y a des draps, soit ils sont dans le champ et puis on tire sur eux. Dans combien de pays, après la guerre, les gens ne savent plus aller dans les champs. Et qu'est-ce qui arrive? Les déserts. C'est l'homme qui est à la base du désert. Si ce n'est pas avec les grenades, si ce n'est pas avec les guerres, si ce n'est pas avec les folies, en abattant les arbres et tout ça des forêts, hein, c'est de toute manière, d'une façon ou de l'autre, c'est toujours l'homme qui amène le désert. Parce qu'il dit aimer la nature, mais il ne l'aime pas en fait. Il la détruit. Il ne respecte pas. Alors, Dieu, lui, aime sa nature, aime son monde, aime sa terre, et il va le montrer en faisant repousser ce qui est disparu à cause du péché, l'Éden. L'Éden. J'ai logé ici un couple de musulmans qui a pratiqué sa foi ici, et j'avais des discussions avec l'homme, on allait au champ ensemble travailler, il m'a dit, j'ai fait l'école coranique dans les montagnes d'Algérie, les djihadistes tuaient même les professeurs de ces écoles coraniques ou les étudiants qui repartaient dans leur village, leur ville à pied. C'est des psychopathes, c'est des fous, les djihadistes, c'est même pas des musulmans pour moi, c'est des fous. Mais il dit, on parlait du pétrole et il a dit, oh, mon professeur m'a dit, dans la montagne, dans l'école coranique, il m'a dit, le pétrole c'est l'excrément du diable. Eh bien, j'ai réfléchi souvent à ça et c'est vrai. Parce que le diable a tenté l'homme. La rupture de Dieu et de l'homme, l'Éden est disparu, la forêt est disparue. Mais la forêt était partout. La preuve, on trouve du pétrole partout. S'il n'y avait pas eu le péché et la rupture, il n'y aurait pas eu la disparition de l'Éden, il n'y aurait pas du pétrole. Et où est le problème maintenant? C'est que toutes les bagarres sont dues au pétrole. C'est vraiment l'excrément du diable. Cet homme avait raison. Vous voyez, quand on a des gens de d'autres cultures à la maison ici, qu'on les écoute, il y a des choses à retenir. C'est vraiment l'excrément du diable, ce pétrole. Il n'amène que des diableries pour le moment sur la terre. Alors, quand Dieu va remettre l'Éden, va remettre la nature, je ne pense pas qu'on aura besoin du pétrole et tous ses moteurs. Il est mis dans Ésaïe, pendant 6 chapitres, que les arbres vont être fondus et on va refaire des hoyos, des houes, des haches, etc. pour retravailler la terre. Alors finalement, l'existence des grandes villes où il faut tout sous forme, sous vide, en plastique, etc., dans les magasins, l'existence de ces grandes villes qui obligent à produire des tas de plastique, des emballages, et produire en pulvérisant, etc. Il n'y a qu'un pour cent de la population qui travaille sur les terres. Ces villes ne dureront pas. Il faudra retourner à une condition plus simple. Comme Dieu l'avait fait au départ. Et pas des conditions de vie artificielles où 95% de la population actuellement est sur les villes. Quand va-t-on arrêter cette folie d'aller tous s'agglutiner comme les essaims d'abeilles dans les villes? Actuellement, la Chine, depuis des années, déporte 30 millions de sa population tous les ans pour les mettre dans les villes. Il y avait plein de petits paysans avec des terres, etc. Tout était harmonieux, tout fonctionnait bien, avec des traditions et tout. Il faut supprimer les traditions, il faut les mener par le bout du nez. Il faut supprimer des fonctionnements familiaux traditionnels. Et il faut faire des grandes cultures avec des gros tracteurs, des ordinateurs, etc. et pulvériser. Comme on fait autre part, comme les Américains semblent être le modèle. Et pratiquement 30 millions. J'ai vu ce rapport, ce film, on voit des villes bâties. Et on l'a déjà fait au Brésil, regardez ce que ça donne. Et ça va donner quoi en Chine? La misère aussi. C'est quand même bizarre. Dieu veut tout le contraire, c'est que l'Éden revienne. C'est que la terre soit cultivée avec des hoyos. Lisez Isaïe. Donc on dirait qu'il y a deux volontés qui s'opposent. Laquelle choisissez-vous, les amis ? Laquelle désirez-vous? De quel camp êtes-vous? Chapitre 2, verset 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ça, c'est pour les habitants de Jérusalem. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Or, les amis, nous allons dans Actes chapitre 2, verset 16. Prenez bien le texte si vous voulez. Actes chapitre 2, verset 16. Et vous allez voir que Pierre qui avait eu peur, Pierre qui avait fui, qui avait trahi son maître, tout d'un coup, après avoir reçu le Saint-Esprit, va parler aux Juifs, pour la première fois en public, sans avoir peur. Pourquoi? Parce que quand le don du Saint-Esprit est donné, tous ces Juifs, les apôtres d'origine juive, qui parlent de Jésus mort et ressuscité pour les péchés, qui parlent en arabe, en latin, en grec, qui parlent dans toutes les langues, et qui annonce la mort et la résurrection de Jésus pour le salut du monde, et le salut des Juifs, il y en a qui se moquent. Chapitre 2, verset 13, d'autres se moquaient, disaient, ils sont pleins de vin doux. C'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui, il faut être con pour croire encore en Dieu. C'est les retardés qui croient en Dieu. Eh bien, c'est ça. Et pratiquement, c'est à Jérusalem. Regardez après, Pierre intervient. Pierre, qui avait été croire, lâche, qui avait trahi, et qui maintenant prend la parole. Alors je vais vous dire, on a chacun son tour. Si Pierre est passé par là, peut-être que c'est aussi à nous de changer et de prendre la parole. Pierre se présentant avec les onze, il va à la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Tiens, voilà. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, mes serviteurs, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Dans Jérémie chapitre 31, dans Ézéchiel chapitre 18 et chapitre 36, les prophètes ont annoncé le don du Saint-Esprit. Jésus à Nicodème a dit qu'il faut naître de nouveau. La chair ne servait de rien. Jean chapitre 3. Qu'il veut des adorateurs en esprit en vérité. Et le temps est venu. Le temps est venu. Alors, là, Pierre explique que ce que Joël avait dit pour Jérusalem est en train de s'exécuter. Le don du Saint-Esprit est donné. Mais alors, il continue dans le texte de Joël, et ça, ce n'est pas réalisé. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se change en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Quand Jésus va revenir, le mont des Oliviers est fendu, il dégringole. Il y a une immense vallée qui s'ouvre vers la mer Morte et vers la mer Méditerranée. Quand une région s'effondre, il y a toujours des volcans, des fumées, etc. Et pratiquement, c'est ça qui est annoncé pour le retour de Jésus. Mais le jour n'est pas encore arrivé. Et le jour de la Pentecôte, il n'y a pas eu la fumée, le feu, etc. Il n'y a pas eu la descente du mont des Oliviers. La porte de l'Orient dans la muraille de Jérusalem s'est pas ouverte. Alors, comment des Juifs peuvent comprendre ça? Ben, il va l'expliquer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, donc des Romains. Dieu l'a résisté en délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc il va citer bien sûr le psaume 16, et puis ensuite le psaume 110, et il va tellement être fort dans sa prédication qu'une partie de la foule va croire dans l'évangile. Au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, dire à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Voilà que tout d'un coup, cet Israël, que Joël n'était pas arrivé à changer le cœur, que voilà tout d'un coup, que Pierre en parlant, accomplit la prophétie de Joël, et ces hommes se convertissent à Jérusalem. Donc, la prophétie de Joël est accomplie, partiellement, parce que les fumées, etc., tout ça n'est pas là, les troubles cosmiques ne sont pas là. Alors, pourquoi ? Est-ce que Pierre, par impétuosité, par inconscience, mauvaise connaissance biblique, a pris un texte de Joël, et puis en disant, on pourrait dire, il s'est planté, il n'y a pas eu tout ce signe-là. Il n'y a pas eu tout ce signe-là. Eh bien non, il ne s'est pas planté, il le savait, Pierre. Et Pierre, s'il a pris ce texte, c'est parce qu'il sait qu'une partie est réalisée, ce sont les prémices. Le don du Saint-Esprit est donné sur un certain nombre de Juifs. Les prémices, c'est les premières gerbes de la récolte qu'on donne dans le temple au printemps pour dire, au mois d'octobre, au mois de septembre, quand j'ai la récolte, je donnerai la dîme de ma récolte. Et les prémices, c'est les signes, c'est la garantie, c'est les arts de l'Esprit. Mais regardez, verset 38, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, donc les futurs, et pour tous ceux qui sont au loin, en eux en si grand nombre que Dieu, le Seigneur notre Dieu, les appellera. » C'est un futur. C'est un futur pour Israël. Donc, quand Pierre prend cette prophétie de Joël, il sait bien que ce sont des prémices, c'est un signe avant-coureur, et c'est pour ça que Paul dit, nous avons reçu les arts du Saint-Esprit, les prémices, nous sommes les prémices. Tout n'est pas encore donné, mais tout Israël sera sauvé. Romains chapitre 11, versets 25 à 35. Quand l'évangile aura été dans toutes les nations, alors Israël sera greffé à nouveau et recevra le Saint-Esprit. Donc Pierre et Paul savent ce qu'ils disent. Exactement, ils sont instruits par Dieu. C'est à ce moment-là qu'il y aura la fumée et le feu, etc. Quand le mont des Oliviers est fracassé et que les Juifs se mettent à genoux devant la grandeur de Christ. Et les nations aussi. Parce que le petit Jésus de la crèche, ça n'existe que dans les fables. Le vrai Jésus de l'Évangile, c'est Dieu Tout-Puissant. Alors, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera, verset 39. Par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Boum. Donc la parole, la vision de Joël, la prophétie accomplie dans ses prémices. Et elle s'accomplira. Quand moi j'ai été en Israël en 98, je ne sais pas si c'est en 98 ou en 2016, 2008. Pratiquement, j'ai vu à Beth Shemesh, Beth Gemal, là, les quatre prêtres qui avaient des milliers de Bibles pour les Juifs. Et il y avait 100 000 Juifs qui allaient en cachette chercher des Bibles avec le Nouveau Testament, tous les ans. Je remercie Dieu d'avoir vu ça. On ne pouvait pas le voir à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, les messieurs avec les chapeaux et les crolles auraient tout brûlé. Il aura peut-être même tué les gens qui allaient en chercher. Mais là, dans cet endroit, de manière très discrète, l'évangile de Jésus-Christ était annoncé aux Juifs. 100 000 par an. 100 000 par an. 600, 2 millions, il faut combien? 2 millions divisé par 100 000, il faut 20 ans. Donc ça va vite. Ça va vite. Et encore dans la voiture, ils en prenaient des tas. Donc ça va vite, la conversion d'Israël. Elle va vite. Le figuier reverdit. Alors, à ce moment-là, regardez bien la suite dans Joël, chapitre 2, verset 30. « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. » Ça, c'est à la fin des tribulations. C'est quand Jésus installe son royaume, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Il est terrible pour qui? Pour ceux qui résistent. Il n'est pas terrible pour moi, pour ceux qui ont la foi. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Vous voyez que Joël a parlé d'un futur pour Israël grandiose. Et qu'il parlait à un peuple, à la nugrette, au cœur incirconcis. Alors, au chapitre 3, c'est la description, bien sûr, de l'échec des puissances démoniaques. En ce temps-là, quand je ramènerai captifs de Juda de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je ferai descendre dans la vallée de Josaphat, là j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple. Donc plein de nations viennent pour briser Israël, pour détruire, et c'est Dieu qui défend son peuple. Et vous avez tout ce chapitre où vous voyez que Jérusalem sera libérée, hein, sera et ceux qui périssent là, verset 14, chapitre 3, verset 14, c'est une multitude dans la vallée du jugement. Le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leurs éclats. Et de Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Donc, vous voyez, quand on parle d'Apocalypse, il n'y a pas question de trembler. Il n'y a que ceux qui sont amis de Dieu qui vont trembler. Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résident à Sion. Ma sainte montagne, Jérusalem, sera sainte et les étrangers y passeront plus. C'est-à-dire, les étrangers, c'est-à-dire ceux qui refusent le salut. Alors, les amis, cette multitude qui est brisée, bien sûr, il y a d'autres textes pour dire qu'il y en avait pour 7 mois à ramasser tous les morts et les enterrer, et que des aigles les mangent, etc. Et ça, vous lisez Ézéchiel 38 et 39, et il y a aussi beaucoup d'autres textes. Donc, Joël a parlé du salut pour Israël. C'est ça qu'il faut savoir. Si Joël a parlé de quelque chose qui est peut-être dur, hein, c'est-à-dire de la ruine d'Israël en 598, et puis plus tard de la ruine des impies, des opposants à Dieu, il a tout de même annoncé le don du Saint-Esprit, la Pentecôte, il a annoncé la naissance de l'Église par le peuple juif, c'est les juifs, les premiers chrétiens, et il a annoncé la conversion d'Israël. Et le royaume de Dieu. Est-ce que c'est un petit prophète? En tout cas, sa parole n'est pas petite. Son texte est petit, mais sa parole n'est pas petite, c'est la parole de Dieu. Alors, vous avez tout dans le chapitre 2, c'est une petite note que je voudrais dire, l'image du feu dévorant, des troupes cosmiques, et puis des expressions comme on dirait des chevaux, etc., on dirait le pétillement de la flamme de feu. Quand vous mettez des épines comme ceci, là, ça pète, ça claque. Mais ça, on trouve les mêmes textes dans l'Apocalypse pour décrire aussi, sous ces armées qui envahissent Israël, où on dirait des chevaux, on dirait du pétillement des flammes. Mais ce sont les armes modernes, les amis. qui se trouvent brisées par Dieu. Ce sont les armes modernes, décrites dans Jean l'Apocalypse avec des mots de son époque, décrites par Joël avec des mots de son époque. Il ne pouvait pas, parler de Kalachnikov, de grenades et de mitrailleuses. Il n'a jamais appris ces mots-là. Mais nous avons le terrain de la Glan ici, à Arlon, de Gomery quand ils font des manœuvres, ça fait comme le crépitement du feu. Ils sont pendant des heures en train de tirer à mitrailleuse, à un Kalachnikov, on entend ça. C'est le crépitement des épines dans le feu. Eh bien, ça, c'est rien du tout pour Dieu. Pour Dieu, c'est rien du tout, la Kalachnikov. Ni les bombardiers, ni rien du tout. Pour Dieu, sa puissance est éternelle. Et le salut sera donné à Israël par grâce. C'est pour ça qu'il faut retenir, au chapitre 2, verset 21, « Terre, réjouis-toi ». Terre, réjouis-toi. Ça veut dire, le salut est vu et entendu. Le Seigneur est glorifié dans le monde entier. J'ai toujours aimé ce que disait Jean dans sa première épître. Pourquoi ? Parce que Jean est porté par cette certitude. Et quand il parle pour les églises qu'il a fondées, il dit quelque chose qui est formidable. Qui est la destination du monde entier, enfin, des sauvés, mais qui est déjà arrivée aux prémices, aux premiers chrétiens. Nous sommes les prémices de ce monde à venir. Premier épître de Jean, chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, rendez compte que Jésus, on va pouvoir le toucher, le contempler, le voir. Et ceux qui l'ont crucifié dans Zacharie, ils vont même voir ses mains percées, ses pieds percés. La vie a été manifestée. Nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Eh bien, on pourrait dire, elle va être pleinement manifestée au monde entier. C'est pour ça que je vous dis, terre, réjouis-toi. Ce que, verset 3, ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons, kerutso, proclamons, comme les prophètes, à vous aussi, afin que vous aussi, nous soyons en communion avec nous. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Mais ça, c'est tout le contraire d'un égoïste, hein, l'apôtre Jean. C'est la même chose que Joël. Terre, réjouis-toi. Terre, réjouis-toi. Et ici, l'apôtre Jean, que notre joie soit parfaite. Finalement, la destinée de toutes les prophéties, c'est la joie du royaume de Dieu. Amen.